Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous. 20h13 avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet et Fred Armel. Messieurs, bon, on s'est dit qu'on n'en ferait pas tous les lundis du Hurling Haaland. Problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, c'est impossible. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, mon cher Julien. Je rappelle qu'il a mis un triplé, le troisième, en trois matchs consécutivement à domicile. On a encore vu, je le disais tout à l'heure en teasing chez Jérôme, un adulte jouer avec des enfants. Il est trop fort pour le football. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, Julien, sincèrement. Donne-nous des stats déjà, et puis après on peut en parler, débattre s'il va tout écraser encore pendant 10 ans, s'il est effectivement le chaînon manquant qui va permettre à City de tout écraser également en Première Ligue, voire plus. Qu'est-ce que tu peux me dire ce soir sur Erling Haaland ?
Alors, je pense que pour commencer, la stat la plus forte, peut-être, c'est que il n'est qu'à 9 buts du total du meilleur buteur de la saison dernière en Première Ligue, et il reste encore 30 matchs. Donc, il lui manque plus que 9 buts pour égaler.
Très bonne stat. Très bonne stat.
Celui qui a fini meilleur buteur la saison dernière en Première Ligue, et il lui reste encore 30 matchs pour y arriver.
C'était combien de buts? Tu l'as
22 buts, donc.
22 buts. Il a 14, hein.
Donc, voilà. Putain, c'est...
Donc voilà, et tu l'as dit, donc troisième triplé d'affilée à domicile, ce que personne n'avait bien sûr jamais fait dans l'histoire. Et donc c'est trois triplés en Première Ligue en 8 rencontres. Donc c'est bien sûr le premier à réussir 3 triplés en Première Ligue le plus rapidement possible à ce moment-là. Celui qui avait ce record-là avant lui, c'était Michael Owen, qui avait réussi 3 triplés aussi, mais lui en 48 matchs. Donc il a quand même mis 40 matchs de moins que l'ancien recordman.
Ce qui était déjà très bien en plus à l'époque. Hein. Trois triplés en 48 matchs.
C'est juste incroyable. Si en plus il ajoute des passes décisives à son... Il y en a deux pour Foden, donc en plus il ajoute ces passes décisives là à son répertoire, puisque jusque là en tout cas en Première Ligue cette saison, et puis même en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il était incroyable dans la finition, et il avait besoin d'une occasion pour marquer un but, et voilà, c'est parfait. Mais dans le jeu, il participait moins, il y avait une passe décisive jusqu'au match de dimanche, et Guardiola nous expliquait qu'il aimerait bien qu'il touche plus le ballon, qu'il aimerait bien qu'Erling soit plus impliqué, qu'il aimerait bien, parce qu'il sait qu'il peut le faire et qu'il peut encore plus apporter à l'équipe. C'est ce qu'on a vu dimanche avec les deux passes d'aise, notamment la deuxième qui est assez magnifique, même si au départ il a l'air un petit peu maladroit avec le ballon, mais c'est vrai que c'est incroyable. En Angleterre, on n'a jamais vu quelqu'un pareil.
Moi j'ai une stat, Julien, également qui est assez drôle. Seules 5 équipes en Première Ligue ont marqué plus de buts qu'Erling Haaland cette saison.
C'est ça.
Seulement City, bien sûr, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Brentford. Les autres ont marqué moins qu'Erling Haaland tout seul.
Ouais, c'est incroyable. Il est dans une autre dimension, il est sur une autre planète, vraiment. Et quand en plus tu as un joueur comme Kevin De Bruyne, et qui a déjà développé, mais c'est normal, après Kevin De Bruyne c'est le meilleur à son poste au monde, mais quand il développe déjà une entente aussi intéressante, aussi importante, alors que finalement ils ont très peu joué ensemble, c'est inarrêtable, tu peux rien faire. Je pense quand même que United a été très naïf dans la façon dont ils ont défendu sur Haaland. Et la grande blague aujourd'hui en Angleterre, c'est que Scott Parker, donc qui était l'ancien entraîneur de Bournemouth, qui s'est fait dégager, mais qui est le seul à avoir su tenir entre guillemets Haaland, puisque dans le match contre Bournemouth, City avait gagné que 1-0, Haaland avait donné une passe décisive pour Gundogan, mais avait été très très bien muselé par la défense de Bournemouth. Il avait pas touché beaucoup de ballons, il n'avait pas pu vraiment se mettre en position pour marquer, par exemple. Voilà, il a vu très peu de services, très peu de ballons. Et donc aujourd'hui, tout le monde se dit peut-être qu'en fait le prochain adversaire de City devrait engager Scott Parker juste pour le match, quoi, et que tous les adversaires maintenant à venir de City pourraient faire une petite pige à Scott Parker pour pouvoir défendre sur Erling Haaland, parce que c'est le seul pour l'instant qui a su comment défendre sur lui.
Fred.
Oui, tu parles de l'entente sur le terrain avec Kevin De Bruyne et Haaland. Comment le fait qu'il prend, toute la lumière, là, Haaland, est-ce que ça passe sans aucun problème dans le vestiaire, ou il y a un risque quand même que s'il puisse déranger ou pas du tout, les mecs seront contents parce qu'il met plein de buts, quoi. Comment ça se passe?
Ouais, non, aucun problème. Mais après, il prend la lumière parce qu'il est très bon sur le terrain. Mais après, en dehors, il fait pas non plus des dizaines d'interviews, des dizaines de spots publicitaires. La dernière fois, je crois qu'on racontait l'histoire où
il faisait du shopping, ouais.
voilà, tout seul en plein centre-ville de Manchester. Il habite en centre-ville, il a un appartement en centre-ville. Mais bon, quand même, en général, ce genre de joueurs-là, tu les vois pas au carrefour du coin aller acheter son pain et son fromage. Mais pourtant, il est encore comme ça. Et surtout, c'est une équipe où la lumière, elle est sur Pep Guardiola et puis c'est tout. Voilà. Il arrive. Je pense que Pep est très content. Pep est très content de la partager, surtout avec un joueur pareil qui va les amener très très haut, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est impossible qu'il gagne pas le championnat. Ça,
c'est fait pour
ça
toi.
Ça va être fait facilement. Ouais, ça va être fait facilement. Ah. Arsenal, personne peut aujourd'hui être en mesure de les sur 38 matchs de les arrêter, quoi. Ou alors il faudrait que tout le monde se blesse, que Pep soit kidnappé et qu'ils envoient Erling Haaland sur Mars, parce que même sur Mars, je pense qu'il pourrait marquer des buts. Mais sinon, il y a aucun, c'est impossible. Et en Ligue des Champions, même si Dortmund était très bon contre eux, ils avaient longtemps gêné. Je sais pas encore une fois comment tu peux les arrêter sur des matchs aller-retour.
Je me rappelle qu'en début de saison, on avait fait un débat. Haaland va-t-il s'adapter facilement, rapidement à la philosophie Guardiola? Avec vous, les gars, Polo, ça se faisait marrer, notamment qu'on puisse se poser des questions sur l'intégration d'Haaland en première ligue à City. Bon, on le voit.
Pour moi, c'était un win-win. Le transfert d'Haaland à Manchester City, indépendamment de ce qui s'est passé depuis 10-15 ans, c'est-à-dire que Guardiola aimait bien l'histoire du faux neuf, etc., avec Messi au Barça, et donc en fait c'est presque lui qui revient au football, j'ai envie de dire classique, avec un véritable numéro 9. Mais en fait on a résumé Haaland à un buteur, et c'est vrai que quand tu vois l'équipe de Manchester City, tu peux pas, t'es pas forcé de lui demander de revenir chercher le ballon aux 30 mètres, aux 40 mètres, tellement il a des bons passeurs. Mais ce que je vois, c'est qu'il a encore marqué un but de la tête, alors que lorsqu'il était arrivé à Dortmund, il savait pas faire une tête. Juju l'a très bien expliqué, la passe qu'il fait, notamment pour Foden, il y a pas beaucoup d'attaquants au monde qui peut faire ça. Et n'oublions pas qu'il n'a que 22 ans. Et donc c'est difficile, c'est presque une équipe parfaite en fait, à tous les niveaux, de celle des grandes équipes qui ont parcouru sur le football européen. Donc ça va être très difficile à arrêter, tout en sachant qu'en Ligue de Champions, il suffit de rater un match ou une mi-temps, il peut se passer plein de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, autant tu vois avant la mini-crise du Bayern, je pensais que le Bayern pouvait faire des choses qui étaient assez exceptionnelles, mais lorsque tu vois qu'il le répète, si, il y a une critique, c'est-à-dire que Manchester United est pas aujourd'hui l'équipe qu'elle devrait être. Haaland doit faire gagner City contre le Real, contre le Bayern, contre la Juve, contre le PSG,
c'est ça, on va l'attendre.
On attend de là. Voilà pour Haaland, hein, City qui jouera à Copenhague hein, mercredi soir pour avoir 9 points en 3 matchs de Ligue des Champions. Bon, ça va dérouler, ça va se qualifier tranquillement. On verra pour les 8e. Demain soir également, grosse affiche bien sûr, presque à la vie à la mort en phase de poule de Ligue des Champions, Inter-Barça. Va y avoir de la casse, le perdant peut perdre gros. Commençons par l'Inter, Johan, qui va pas se présenter dans sa meilleure forme actuelle avec un coach sous pression. Je rappelle que l'Inter est 9e de Serie A.
Ouais, 4 victoires et 4 défaites en 8 journées, c'est pas bon du tout. Le match contre la Roma ce week-end est dans la même lignée de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est apathique, qui a du mal à réagir, qui a du mal à agir. Donc quand tu ne sais pas agir, pas réagir, c'est toujours un peu compliqué. Quand elle mène au score, elle se fait rejoindre et dépasser, c'est pas la première fois cette saison. Même quand elle joue une équipe de la Roma qui franchement a pas mis beaucoup de rythme, mais autant on avait quitter la Serie A sur un Milan-Naples exceptionnel avec du rythme, de l'intensité européenne, enfin niveau européen, etc. Autant on a repris par un choc Inter-Roma plan-plan, quoi. Ça allait à deux à l'heure. Deux équipes qui n'ont pas finalement montré grand-chose. Alors Mourinho va être content de la victoire parce qu'il bat un gros à l'extérieur, etc. Mais il n'y a quand même pas grand-chose de positif à tirer pour les deux équipes. Et c'est vrai que cette équipe de l'Inter, elle a beaucoup de problèmes. Elle encaisse beaucoup trop de buts par rapport à ce qu'elle peut concéder. Il y a des défenseurs qui manquent clairement d'agressivité aujourd'hui. Quand on voit le Skriniar de la saison passée, qu'on voit le Skriniar actuel. Bon, alors évidemment, il n'a pas eu de préparation physique cette saison. Il faut toujours le rappeler que c'est toujours difficile de se remettre dans le coup, etc. Mais il est à des années-lumière du défenseur qu'il a été. Bastoni est en grande difficulté. Handanovic dans les buts. On va vraiment commencer à se poser la question. Enfin, elle devrait être vite répondue, comme diraient certains. Mais avec Onana, qui, pour moi, aujourd'hui, doit prendre la suite d'Andanovic. C'est clair et net. On a une équipe qui marque pas assez. Alors là, manque de beau pour eux. Lukaku, il a joué 3 journées cette saison de Serie A. Et il s'est blessé. Donc,
il ne sera pas là, d'ailleurs, demain soir. Non,
il ne sera pas là. Lautaro est pas à 100%. Là, il s'est entraîné ce soir, mais il n'est quand même pas à 100%. Donc, c'est très compliqué aussi. On a un entraîneur qui... paraît un peu perdu, il tente des choses un peu bizarres. Moi, la gestion du cas Robin Gosens, je comprends toujours pas à l'Inter. Ils le font venir en janvier pour 25 millions d'euros. Par conséquent, tu ne peux pas prolonger Perisic parce que tu ne peux pas avoir deux joueurs avec de gros salaires à ce même poste. Perisic a marché sur l'eau la saison dernière. Et là, Gosens, il est numéro 3 derrière Darmian et derrière Di Marco. Ça me semble assez surréaliste. Et plus tu vas le laisser sur le banc, bah moins il aura la forme, mais la présence, enfin ou en tout cas la constance pour jouer 90 minutes de manière régulière. Donc il est en train de se tirer une balle dans le pied aussi sur ce poste-là. Il y a d'autres choix qui sont très discutables. Ses changements sont très discutables. Il attend la 88e minute pour vraiment désorganiser son système classique et tenter quelque chose. Arrêter avec ses trois défenseurs, même quand t'es mené, que tu dois courir après le score, etc. Avec tes cinq défenseurs, il faut passer à autre chose, amener plus de densité, plus de joueurs créatifs, plus d'attaquants. Il faut, ouais, il a attendu la 88e minute pour le faire. Donc il y a beaucoup de trop de choses qui vont pas. La communication aussi en ce moment, c'est catastrophique. Quand je vois la réaction d'Inzaghi et de Di Marco à la fin du match contre la Roma,
qui dit que c'est le meilleur match depuis le début de saison,
ouais,
son équipe.
Mais alors, soit il a raison, c'est-à-dire que les autres matchs sont vraiment pourris. Mais moi, c'est parce que je pense qu'il y a eu des matchs qui étaient meilleurs que ça sans être incroyables.
Donc, voilà. C'est très cool. Ce sera sans Brozovic et Lukaku demain face au Barça, ouais. Avec, tu l'as dit, Lautaro Martinez incertain. En même temps, Fred, le Barça a gagné petitement à Mallorca, 15-0 Lewandowski.
Petitement, mais 836 jours plus tard, le Barça est de nouveau leader de la Liga, à la différence de but avec le Real. Ça fait un long moment. Donc, automatiquement, oui, psychologiquement, après une traversée du désert, ça fait du bien quand même, hein. Les supporters et les joueurs et Xavi regardent AS Marca, ou plutôt Sport ou Mondo Deportivo, que c'est le journal de sport catalan, et ils voient qu'ils sont en tête de la Liga. Donc c'est jamais mauvais, hein, pour une équipe en reconstruction. Non, ça n'a pas bien joué. Alors ce qui est très intéressant, et on en parle beaucoup en Espagne, c'est que le Xavi entraîneur est beaucoup moins radical dans son langage sur le jeu que le Xavi joueur. Il a eu parfois des mots mais extrêmement durs contre un Real qui gagnait mais qui jouait pas selon les critères du grand Barça avec le jeu qu'on va plus décrire aujourd'hui. Ce Xavi qui, quand il est arrivé, disait au Barça, c'est le club le plus dur du monde parce que gagner ne suffit pas, il faut jouer très bien. Bon, il était très content de la victoire à Mallorca sur un but exceptionnel de Lewandowski, exceptionnel. Le crochet qu'il met pour mettre dans le vent le défenseur et placer une frappe qui lèche le poteau gauche du gardien est absolument sublime. Il n'y a eu que ça, si deux bons arrêts de Ter Stegen. Voilà, le Barça de Xavi, c'est-à-dire le Barça du milieu de terrain, il n'a pas été bon du tout samedi. Mais sauf que le Barça a gagné, leader. Donc on va dire que Xavi a mis de l'eau dans son vin par rapport à son métier d'entraîneur et à son dogme. Il est aujourd'hui beaucoup plus pragmatique, et finalement parfois, oui, il faut être pragmatique. Et ce que je disais en entrée tout à l'heure, c'est qu'on sait que les grands clubs espagnols, c'est à peu près pareil en Europe, en tout cas en Espagne, la tradition du Real et du Barça de perdre des points après les pauses internationales, et la fatigue, les blessés, les voyages, etc., fait que le Barça a réussi à négocier ce déplacement à Mallorca contre une équipe qui a été assez virevoltante. Donc ce Barça, alors il y a des absents quand même, attention, hein, parce que la défense, elle est un peu recomposé, parce que le meilleur défenseur de ce Barça, Ronald Araujo, on sait il est blessé, il va peut-être louper le mondial aussi, et ça c'est un gros coup. Koundé est blessé, Bellerin est blessé, De Jong est blessé, Depay aussi, mais bon, Depay c'est moins grave. Mais bon, on se retrouve avec un Barça quand même très compétitif, qui est surtout d'un point de vue, on va dire, mental, dans un grand état de forme. Mais le Barça a le même nombre de points que l'Inter,
3 points,
donc malheureux vaincu.
Le Bayern leader, 6 points. Donc,
on sait déjà que le Bayern va être premier.
S'il y a un perdant demain soir, voilà, le troisième sera à 3 points de deuxième et à 6 au mieux du Bayern Munich. Polo, j'y pensais, là, on a fait qu'un quart d'heure sur Haaland et un peu de Lewandowski. Tu te sens pas orphelin, hein, ça va?
Non, moi c'est plus les débats qui m'intéressent. Lewandowski est stratosphérique depuis des années. Haaland, c'est la nouvelle star. Donc le fait, moi ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est de dire que les défenses allemandes sont en bois, quoi. On n'a pas ce débat en Espagne, on n'a pas ce débat en Première Ligue. Je sais que dans ma communauté, entre guillemets, ceux qui suivent la Bundesliga, ils aimeraient bien que les supposés journalistes qui sortent des super infos toutes les semaines en nous expliquant que les défenses allemandes sont en bois.
Qui a dit ça,
moi dans ma communauté,
dans ta communauté,
qui fasse.
On a entendu que c'est en Angleterre les défenses en bois. Hein.
Non.
À une époque.
Oui, on disait de l'Allemagne aussi. On disait de l'Allemagne aussi.
Je parle il y a 25 ans, les gars.
Pour la raison, les chiffres de Lewandowski en Allemagne, souvent, notamment en France, on le mettait en perspective avec une supposée problème d'un football très offensif et peu défensif. Mais sincèrement, moi, ce qui m'impressionne sur Lewandowski, Julien se répète avec Haaland, mais moi je me répète avec Lewandowski, c'est cette capacité d'intégration dans une équipe et dans un championnat dans notre pays. C'est-à-dire que c'est pas rien d'aller en Espagne et au Barça, surtout un Barça en reconstruction, et ce qu'il fait est exceptionnel. Mmh. Sincèrement, si vous avez l'opposé, regardez le crochet que fait Lewandowski, bah parfois, son but c'est son crochet, et c'est merveilleux. Voilà.
Non, je me souviens du débat à l'époque, Thierry Henry, beaucoup disaient détracteurs, si Thierry Henry marque autant de buts en Angleterre, c'est parce que les défenses sont bidons. Il y a eu ce débat, hein, les gars, à une époque, hein. Julien, tu l'as entendu ce débat. Oui, mais je parle d'il y a 20 ans.
Oui. Mais moi, je me souviens de Vicente Lizarazu aussi, qui se plaignait en privé, qu'on en faisait beaucoup, par exemple, autour d'Arsenal. Et il disait, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné, eux, alors que lui, au Bayern, il gagnait plein de titres.
On parlera d'Arsenal tout à l'heure, bien sûr, les gars. Les drôles de dames, Génération After sur RMC. On revient dans un instant. On va parler de Chelsea Milan, également mercredi soir, autre affiche de la semaine en Ligue des Champions. Chelsea, qui est dernier du groupe pour l'instant, hein. Derrière notamment le Dynamo Zagreb et le RB Salzbourg. Il faut gagner mercredi soir. Restez avec nous, drôles de dames, Génération After sur RMC.